Stéphane Baril, qu'est-ce que vous faites? D'où est-ce que vous venez? Quelle est votre activité principale et vos activités secondaires? Quelles sont vos passions?
D'où je viens, bah, plutôt de la compta en fait à la base, par pure erreur de parcours on va dire, ce qui m'a vite fait comprendre que c'était pas du tout ça que je voulais faire. Et puis ensuite, bah, je suis par des voies détournées, j'ai enfin réussi à aller vers ce qui m'intéressait, c'est-à-dire l'école d'art du Havre et donc en général les arts graphiques. Et puis bah, après, bien quelques années en agence de publicité, différentes expérimentations. Avant d'arriver, bien maintenant, à travailler chez Adobe et après quelques années d'enseignement dans une école de mode, en fait l'Istituto Marangoni.
École de mode qui se trouve à la même adresse que Adobe, c'est ça?
Ah oui, par pur
Par
hasard.
pur hasard.
J'aime à penser parce que quand j'ai commencé dans cette école, il y avait Adobe, nous étions à la Tour Montparnasse et on a déménagé en fait dans les mêmes locaux. Donc j'aime à penser que c'est pour moi
Ouais. Bon, et alors, la BD, alors, c'est une passion, avant d'arriver à ce bouquin, et avant d'arriver à toute cette écrit, tous ces écrits sur la colorisation, c'était déjà une passion, j'imagine.
Oui, gamin, j'en lisais énormément en fait. Tous les classiques, enfin, j'avais un oncle qui nous avait offert toute la famille, enfin, frères et sœurs, aussi bien tous les Tintins, tous les Astérix. On en lisait beaucoup, et puis après, il y a eu pas mal aussi de comics aussi. J'avais avec une sœur, en fait, Armelle, on s'achetait chacun certaines séries, puis on se les prêtait. Et puis j'ai décroché à un certain moment où le comics américain commençait à être un peu confus, il y avait beaucoup de séries parallèles, beaucoup de choses, et ça m'avait un peu rebuté, et puis j'avais un peu décroché du coup, pas à cause d'autres activités.
D'accord.
Revenu en rencontrant simplement bah, Nights, mon co-auteur, il y a quelques années en fait, on fait des arts martiaux ensemble, et un jour on a parlé, il avait besoin d'un service sur informatique, il n'avait pas d'ordinateur à l'époque, excuse-moi. Et donc du coup, il est venu, on a commencé à parler un petit peu plus de ce qu'on faisait, et puis il m'a passé des planches de BD en me disant que, en fait, 80-85% de la BD était fait sur Photoshop et en couleur, et que du coup, moi ayant cette compétence sur Photoshop et un passé des beaux-arts, eh bien, il m'a passé quelques planches pour m'amuser en fait. Donc c'est comme ça en fait que c'est revenu, il m'a repassé des bandes dessinées, et puis j'ai commencé à remettre un pied dedans, puis deux, et puis voilà.
D'accord. Et alors là, il s'agit donc d'une deuxième édition chez Erol. Y a la première édition, moi, j'ai jamais vu. Elle ressemble à s'y tromper à celle-ci ou il y a eu des grands changements entre la première édition et celle-ci?
Il y a eu des grands changements, il y a 100 pages de plus par exemple. Avec Nice, ce qui nous intéressait, c'était pas de juste rafraîchir les captures en fait. Bien sûr, c'est ce qu'on a fait hein, sur certaines parties du livre où il y avait pas grand-chose à retoucher. Et puis on a rajouté une centaine de pages sur les nouveautés qui sont apparues depuis la version CF1. Donc le bouquin est sorti début 2005, la première version. Et puis ensuite, là, il est sorti la deuxième édition est sortie en décembre 2010.
Ouais.
Donc on voulait voilà ajouter des choses. Donc là on a rajouté 100 pages principalement sur Illustrator, comment colorier
D'accord,
Illustrator.
d'accord. Aujourd'hui, tu as déjà des retours sur cette publication. Des gens t'ont écrit, t'écrivent régulièrement pour avoir d'autres renseignements, pour des précisions. Est-ce que tu as un contact avec les lecteurs?
Alors j'ai pas de contact avec les lecteurs directs. J'en ai au travers des conférences que je fais chez Adobe, où là des gens viennent me voir, comment dire, un petit peu m'interroger. J'avoue que je n'ai pas réellement de contact, sinon hormis ça, par mail très peu. J'ai un mail dédié à ça qui est colorisation@gmail.com. Et en fait, j'ai dû recevoir deux mails depuis cette édition, donc depuis décembre, c'est tout à peu près.
D'accord. Et d'accord. Quelle est la méthode? Comment vous avez écrit ça? Vous avez structuré? Vous avez les grands chapitres du livre? Parce que au fond, c'est peut-être un reproche que je ferai quand j'ai feuilleté le livre, c'est qu'on sent assez peu le chapitrage. Est-ce que c'est exprès? Est-ce qu'il y a une sorte de déroulé en continu? On a un peu l'impression que vous n'avez pas voulu trop structurer le livre.
Enfin, je pense l'inverse. On a pas mal travaillé dessus. Alors après, bon, on est peut-être passé à côté des choses, mais on a pas mal travaillé. En fait, pour revenir un petit peu en amont, l'idée du livre, ça m'est venue il y a quelques années de ça, justement, quand Christian m'a présenté pas mal de coloristes avec qui il a travaillé. Et donc la plupart, c'était plus pour me montrer les choses, ce qu'ils ont fait. J'ai appris beaucoup de choses avec eux sur la couleur. Et on passait souvent la moitié du temps à je passais l'autre moitié du temps alors à répondre pourquoi quelle est la différence entre l'écran, l'impression, les couleurs changent et sur les méthodes dans Photoshop. Et donc c'est de ce constat-là en fait que c'était parti. Donc après on a essayé de voir ce qui existait, ce qui n'existait pas. Enfin, il n'y avait aucun ouvrage qui existait ni en langue française ni en langue anglaise à l'époque. Et puis on a commencé à construire ensemble une méthodologie. On voulait vraiment qu'il y ait aussi bien du traditionnel. C'est-à-dire bah, comment ça se faisait avant pour les grandes lignes, les théories de la couleur, l'histoire de la couleur dans la BD. Et ensuite, le chapitrage est assez simple, vu que après c'est la chronologie en fait de mise en couleur d'une bande dessinée, c'est-à-dire dans les planches avec le scan, etc. Et puis, on voulait aussi laisser la tribune à d'autres personnes qui colorisaient avec d'autres méthodes, avec d'autres outils.
Finalement, il y a une partie qui n'est pas cachée, mais qui est presque en filigrane, c'est tout simplement la photogravure. C'est-à-dire, il y a un aspect photogravure très très fort dans le livre.
C'était en gros aussi comment dire, les grosses questions que je rencontrais quand on me présentait des coloristes, c'était ça. Et donc moi, ayant un passé, sans non plus avoir été un grand expert de la photogravure, ayant un passé quand même de ce côté-là,
Alors pour les lecteurs du blog qui ne connaissent pas trop, la photogravure, c'est l'art de séparer les couleurs, RVB, pour entrer dans un univers CMJN qui ne dénature pas trop les couleurs d'origine RVB.
Le but, c'est vraiment que les couleurs, en gros, que j'écris sur mon écran. Hein,
Et notamment pour garder la fraîcheur des couleurs.
Exactement. Ouais. Et donc, il y a aussi bien toutes les bonnes pratiques, mais on passe aussi sur la. Et c'est ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on voulait apporter aussi bien des réponses concrètes, vu qu'il n'y avait rien, vraiment aucune méthode n'était proposée. Au mieux, certains éditeurs laissaient 2 pages techniques, et quand on regardait, quand on avait fait le tour un petit peu de tout ce qui avait été donné, c'était loin d'être homogène. C'était un peu beaucoup de recettes, hein, à droite, à gauche. Et donc nous, on a voulu apporter cet éclairage, mais on voulait aussi que ça parle vraiment aussi créa, couleur, ambiance, etc. Si on regarde les 2 planches, par exemple, qu'on avait fait sur Photoshop, on a essayé alors c'est un peu malgré tout, hein, Christian et moi, enfin Naïs et moi, sans renier ces planches, mais on a été obligé de mettre beaucoup plus d'effets que ce que nous on mettrait dans nos colorisations, tout simplement parce que là, le but était de faire des pas à pas, et donc de montrer un maximum de choses. Pareil sur la méthode, on essayait d'être assez exhaustif, de montrer le moyen le plus, on va dire, le plus, le pas le, pas le plus pro, mais le plus, comment dire, non destructif, ou qui permettre de faire des allers-retours, en fait.
Et au fond, on a aussi l'impression, en lisant l'ouvrage, que au fond, la colorisation, c'est une partie non seulement importante, mais très très créative finalement. C'est pas, on peut pas dire que ce soit juste un travail technique. C'est une certaine manière de la créativité à l'état brut, non?
Oui, clairement. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est quand tu vas faire, quand des auteurs te contactent ou un éditeur pour une série, ils te font faire des essais, ils font faire des essais à d'autres personnes en parallèle, et il arrive parfois que tu vois les essais sur exactement la même planche, les ambiances sont complètement différentes. Honnêtement, on ne dit pas exactement la même chose. Donc le but d'un coloriste, c'est quand même ça, c'est de comprendre l'intention du ou des auteurs. Dessinateur et scénariste, afin de coller un univers coloré, une ambiance qui aille avec l'histoire et surtout qui ne l'interrompt pas. Moi, il y avait ce qui m'avait choqué, c'est Nike qui m'avait éduqué à ça, c'est que beaucoup de coloristes qui commencent veulent montrer qu'ils savent faire en fait. Et ils vont mettre énormément d'effets dans chaque case, ce qui fait que c'est vrai que chaque case peut être jolie, voire même trop chargée. Et du coup, on va s'arrêter sur chaque case au lieu d'arriver sur une lecture qui est fluide, voilà, d'être sur un flot de lecture. Pour moi, un bon coloriste doit avoir certes donner une ambiance agréable. Immédiatement, on est dans l'univers, mais en même temps, on ne doit pas casser. On est au service de la narration. En fait.
Ouais. Et alors, en pratique, comment ça se passe dans l'industrie de la BD? Parce qu'on peut aussi parler d'une industrie. Il y a l'artiste qui dessine. Est-ce que c'est en général l'artiste lui-même qui fait la colorisation, ou est-ce que justement c'est sous-traité chez l'éditeur? Est-ce que l'éditeur, il a des équipes de coloristes et qui font la colorisation, ou est-ce qu'ils font appel systématiquement à des intermittents, à des intervenants extérieurs? Comment ça se passe en fait, comment s'organise au fond cette petite industrie de la BD
Alors, il y a plusieurs voies en fait. Il y a certains auteurs, par exemple Knights, donc mon co-auteur sur ses dernières séries, en fait, il fait tout en couleur directe. Donc, c'est-à-dire que lui directement, il utilise une méthode mixte à base de feutre Pantone. Ça te donne un aspect un peu aquarelle, vu que c'est des feutres à l'eau. Hein, il va les remouiller, les rediluer sur le papier. Donc du coup, il n'y a pas d'ancrage. C'est comme de la peinture, quoi. C'est une couleur directe. Donc, il y a certains auteurs.
J'imagine que Tardi ou Enki Bilal font directement la couleur.
Exactement, tout à fait. Donc voilà, il y a une partie en fait d'auteurs qui vont faire ça, qui vont travailler comme ceci. Donc là, d'office, c'est eux les coloristes et les dessinateurs, avec les deux sont liés.
Mais ils le font du coup, ils le font traditionnellement.
Du coup, ils le font traditionnellement, mais on voit aussi pas mal d'auteurs qui sont passés. Du traditionnel au numérique, mais qui vont continuer sur le même process. Je pense par exemple à Segrel sur le mercenaire. Donc il a fait, je crois, jusqu'au tome 11 ou 12, tout ça. Alors lui, c'était directement la peinture à l'huile. Donc chaque case est magnifique, je dirais même peut-être trop. Du coup, ça donne quelque chose de figé à mon goût. Mais malgré tout, je regarde toujours avec plaisir parce que c'est magnifique. Il est passé donc au tome 12 ou 13 à Photoshop. On voit pas la différence en fait. On voit absolument pas la différence.
On voit pas la différence.
On peut regarder, on peut supposer à certains endroits, dire ah là oui peut-être.
Ouais.
Voilà, il a adapté l'outil pour lui donner le rendu en fait.
D'accord.
Le rendu en fait.
Et alors, je vais poser une question piège, et ça va être ma dernière question. Quand est-ce qu'on verra naître une BD entièrement réalisée, dessinée et réalisée par Stéphane Baril?
Oula, moi je suis pas dessinateur à la base. J'ai eu quelques bases de dessin en Beaux-Arts, mais qui étaient plutôt des bases de dessin académiques.
Ouais.
Et bon, j'ai pas beaucoup pratiqué depuis, on va dire.
Oui, mais la BD, c'est pas que le dessin. Il y a aussi la narration, il y a aussi la scénographie, il y a la création de personnages.
Mais on a un projet dans les cartons, mais qui pour l'instant, pour des questions de calendrier des deux côtés, n'est pas en route avec Knight, où on serait co-auteur, lui au dessin et moi à la couleur. Mais pour l'instant, en fait, ça reste un projet dans les cartons en raison de nos emplois du temps, mais voilà, on travaille dessus de temps en temps.
Et alors, une question subsidiaire, est-ce que la colorisation par les logiciels numériques, Adobe, Adobe ou autres, est-ce que ça tire finalement la BD vers le graphisme?
J'ai pas l'impression. Je pense que la BD va vers le graphisme. Enfin, une certaine partie de la BD va vers le graphisme.
Je pense à des films comme Sin City, comme 300 et d'autres, qui sont où c'est le cinéma quelque part qui vient vers le graphisme d'une certaine manière.
Mais je pense que voilà, c'est plutôt un mouvement de culture, enfin, et de fond d'image. L'image, on a beaucoup plus d'images, d'immédiateté à l'image depuis des années. Plus que l'ordinateur par rapport à ça, je pense.
D'accord.
Vraiment que c'est aussi bien, mais des BD étaient comme un Akira, dans le manga était très 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 graphique déjà, et c'était pas fait normalement à l'ordinateur, donc je pense non, c'est vraiment plutôt un fond vraiment sociétal qui est.
D'accord. Mais écoute Stéphane, je te remercie infiniment pour ce petit interview improvisé un dimanche soir. Et donc, mille merci et pour moi et pour mes lecteurs. Et je te dis à très bientôt.
Merci à toi, Peter. À bientôt.
Au revoir.